Accent d'Europe, Juliette Rangeval, Anne Cantner.
Bienvenue, c'est un angle mort de la politique en France, le statut des femmes mères et mères. Les élus locales sur le point d'accoucher ou qui viennent de donner naissance à leur enfant font face à un vide juridique. Pas de salaire maintenu pendant la durée légale du congé maternité et un intérim pas toujours assuré dans de bonnes conditions.
Et cette situation est dénoncée par de nombreux élus. La question fait l'objet d'un texte qui est en train d'être étudié au Sénat.
Mais pour l'heure, cette situation implique des choix à contre-cœur, très difficiles. Illustration dans le département de l'Essonne avec Laura Taouchanov.
Après une montée assez raide à travers les jardins de l'hôtel de ville de Juvisy-sur-Orge, qui rebuterait d'ailleurs plus d'une femme enceinte, nous arrivons dans le bureau de la mère, Lamia Ben Sarsareda. Sur le canapé, une scène plutôt surprenante. Son directeur de cabinet est en train de surveiller sa petite fille de 3 mois pendant qu'elle travaille.
J'ai effectivement l'originalité d'avoir été enceinte 2 fois pendant mon premier mandat. J'ai un petit garçon qui a 3 ans et une petite fille qui a donc 3 mois depuis la semaine dernière.
Et qui est dans votre bureau juste à côté.
Voilà, qui est dans mon bureau juste à côté, puisqu'elle n'a pas l'âge requis pour être gardée. C'est à partir de 4 mois qu'on peut les faire garder. Je dirais pas que c'est facile, mais on fait comme on peut pour s'organiser. Et puis, on s'adapte. Et je crois qu'elle, elle s'est adaptée, tout comme son frère s'est adapté. Ce sont des enfants qui ont intériorisé qu'il fallait qu'ils s'adaptent. Je l'emmène en réunion, je peux l'emmener sur certaines manifestations. Et puis, voilà.
L'élu va jusqu'à planifier une césarienne pour choisir la date de son accouchement. 2 jours avant, enceinte jusqu'au cou, elle est encore sur le terrain avec un agenda de fin d'année très chargé.
Revenir travailler au bout de 15 jours quand on a subi une césarienne, c'est pas simple effectivement, ouais. Avec une vraie pression, en l'occurrence, au regard d'une situation très urgente qui concernait l'hôpital de Juvisy. 2 jours avant que je rentre à la maternité, et puis par les attaques de mon opposition qui a cru bon de me rendre responsable de la situation de l'hôpital, alors que j'étais effectivement à la maternité, il a fallu que je revienne beaucoup plus vite, malgré la naissance de ma fille.
Lamia Ben Sarsareda aurait pu faire le choix de partir en congé maternité, mais contrairement aux autres femmes en France, son salaire n'aurait pas été maintenu. La loi aurait tout simplement considéré qu'elle suspend son mandat. Et par ailleurs, rien n'est prévu pour assurer son intérim. C'est donc prendre le risque de retarder des dossiers importants pour la commune.
Évidemment, c'est un choix qui est difficile, c'est un choix que j'assume. Mais effectivement, ça demande, on va dire, beaucoup d'abnégation. Et parfois, de laisser de côté un peu ce qu'on peut ressentir.
Tenez. Ouais, toi, t'es réglé comme du papier à musique.
Bah, elle prend une émission.
Pas que la faire.
Elle s'en fout de où elle mange. Hein. Ouais. Sans doute que ce qui m'a le plus gênée, c'est de montrer cette image-là qui peut parfois être culpabilisante pour d'autres femmes qui, elles, ont besoin de plus de temps et de prendre soin d'elles et de prendre soin de leur bébé.
Merci.
Moi, je ne souhaite pas montrer aux femmes qu'elles doivent être des super-héros et c'est effectivement des sacrifices et des compromis. Ce qui, disons, permet de les faire, c'est de se dire qu'on est utile. Voilà. On ne soupçonne pas le bouleversement que c'est que d'avoir un enfant dans sa vie. Ma chance, c'est d'avoir été très entourée.
Dans cet entourage précieux, il y a notamment Moïse Fournier, son directeur de cabinet, qui est en train de bercer sa fille après le biberon.
L'intérêt pour nous qui sommes à ses côtés, c'est de pouvoir continuer le service public en étant notamment maître de l'agenda. On n'organise pas des réunions à 7h30 le matin, par exemple, ou à 20h30, ou des choses comme ça. S'il y a moyen de les éviter, on les évite. Après, s'il y a des impératifs, on s'arrange. C'est d'essayer aussi de prioriser les urgences. On avait tout ça en tête, d'être un petit peu protecteur pour qu'elles puissent profiter de ce moment qui est quand même unique et qui est merveilleux, quoi. Voilà. Toute la bienveillance qu'on peut avoir, c'est aussi parce qu'elle le mérite en tant qu'amie. Enfin, c'est quelqu'un qui est aussi là pour les autres.
Avec seulement 20% de femmes à la tête des mairies, les exécutifs municipaux ont du mal à faire une place aux élus. Sophie Rigaud, la maire d'hiver droite de Saint-Michel-sur-Orge, également vice-présidente du département de l'Essonne, en a aussi fait les frais en accouchant d'un petit garçon l'été dernier.
Moi, j'ai inauguré mon village vacances le lundi. J'ai accouché le jeudi matin à 2h59.
déclenchement parce que, étonnamment, un peu de tension du côté de maman. J'ai la chance, c'est ça qui est fou, c'est de se dire que bah, finalement, un bébé d'été, il y aura peut-être pas l'anniversaire fêté à l'école avec les copains comme d'autres qui naissent par exemple au mois d'avril. Mais du coup, moi, ma chance, ça a été ça, de pouvoir prendre à peu près 4 semaines pour pouvoir accueillir mon enfant. Alors, on pourrait me dire, bah, vous l'avez choisi. Pas tout à fait quand même, pas forcément dans ces conditions. Je pense qu'il manque en fait un vrai congé maternité identifié comme pour n'importe quel salarié en fait. Et puis avoir aussi une forme de prise en compte pour notamment les élus qui suivent, qui doivent s'organiser avec leur employeur. Il faut avoir cette capacité à pouvoir justement avoir du temps libéré pour que tout puisse continuer à fonctionner. Avoir une femme à la tête d'une ville, mais c'est une chance. Parce qu'à un moment, on a un enfant, ça ne doit pas être quelque chose de perçu différemment qu'une chance, en fait, tout simplement. Donc là, je pense qu'il y a urgence à agir. Clairement, la démocratie y gagnerait. Quand vous avez un rajeunissement aussi, bah, ça change la donne.
À 2 ans des municipales, ces deux élus attendent plus de représentativité dans les mairies, avec des femmes qui s'engagent plus jeunes et n'attendent pas d'avoir fondé leur famille pour entrer dans la vie politique.
Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti pour évoquer le conflit en Ukraine. Le chef de l'État français veut convaincre de la gravité de la situation en multipliant ces derniers jours les déclarations controversées.
Il faut dire qu'au plan militaire, la situation des Ukrainiens est préoccupante et que le soutien des Européens n'est plus aussi univoque qu'il y a 2 ans au moment de l'invasion russe.
Et à ce moment-là, les Pays-Bas notamment ont accordé le statut de réfugié à toutes les personnes fuyant l'Ukraine, quelle que soit leur nationalité. Mais cette politique néerlandaise est maintenant terminée. Les explications de Pierre Benazet.
Ils sont majoritairement algériens, marocains ou nigérians, mais certains viennent aussi du Zimbabwe, du Ghana ou du Pakistan. Et ils étaient tous, jusqu'ici, considérés comme ukrainiens par les Pays-Bas. On les appelle ici des Derdelanders ou ressortissants d'un pays tiers. C'était une décision européenne mise sur le tapis le 3 mars 2022, quelques jours après l'invasion russe. Cette règle européenne a été initialement appliquée à la lettre aux Derdelanders par les Pays-Bas, puis à l'issue de batailles judiciaires, prolongée jusqu'à l'échéance européenne du 3 mars. Depuis lundi, les quelques 2450 personnes qui avaient été accueillies au même titre que les citoyens ukrainiens ne bénéficient plus de la protection temporaire. Ils ont donc le choix, soit déposer une demande d'asile, ce qu'ont fait 740 d'entre eux, soit quitter le territoire néerlandais d'ici la fin du mois. En cas de départ, le gouvernement batave leur octroie une compensation de 5000 euros. 760 personnes ont ainsi décidé de retourner dans leur pays d'origine. Un groupe de ces Derdelanders a décidé de poursuivre la lutte judiciaire. Et ceux qui ont demandé l'asile ont statistiquement peu de chances de l'obtenir, car leurs pays d'origine sont considérés comme sûrs.
Will be proud to say, I am an European.
L'Union européenne veut remettre en route sa politique de défense. Au sein de l'UE, il y a longtemps eu un tiraillement entre les pays membres sur la politique de défense, mais depuis la guerre en Ukraine, depuis aussi les déclarations sur l'OTAN de Donald Trump, possible prochain président américain, la garantie de sécurité des États-Unis semble moins fiable, d'où cette prise de conscience de l'Europe.
Et comme chaque jeudi, nous éclairons les enjeux européens en vue des élections du 9 juin prochain. Cette semaine, avec notre confrère Grégory Raïko du site The Conversation.
Et les relations entre l'Allemagne et la France illustrent bien ces tiraillements dans le secteur de la défense en Europe. The Conversation propose un article sur le sujet de Delphine Deschaux-Dutard de l'Université Clermont-Auvergne, qui revient sur ces divergences, Grégory.
Ces divergences, elles ne sont pas nouvelles, elles existaient déjà du temps d'Angela Merkel, mais elles ont été réactivées dans le contexte de la guerre en Ukraine.
Est-ce que ces divergences dans les politiques françaises et allemandes pourrait être levé?
Oui, c'est possible, et c'est possible notamment grâce à un homme dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Donald Trump. Puisque la perspective, qui semble aujourd'hui assez crédible, d'un retour de Trump à la Maison-Blanche, pourrait finalement inciter Berlin à se rapprocher de Paris et à accepter l'idée qu'on ne peut pas dépendre ad vitam aeternam de Washington. On a entendu les propos très sévères de Trump sur l'OTAN. On connaît sa propension à se montrer compréhensif à l'égard de la Russie actuelle dans le cadre du conflit en Ukraine. Il a même annoncé que, éventuellement, l'article 5 de l'OTAN, qui implique que tous les pays de l'OTAN entrent en guerre aux côtés d'un pays agressé, n'était pas aussi automatique que cela. Donc, voyant la perspective de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche à nouveau, les Allemands pourraient tout à fait se dire qu'il convient d'aller dans le sens des Français et de développer davantage les projets industriels à l'intérieur de l'Union européenne.
Autre sujet publié dans The Conversation, Grégory Raïko, cet article sur le plan Mattei, annoncé par Giorgia Meloni en Italie, sur l'Afrique et l'Italie.
Ce qui s'est passé, c'est que fin janvier, l'Italie a organisé à Rome un grand sommet Italie-Afrique dans le cadre du palais du Sénat sous les ors de la République. Giorgia Meloni a accueilli 26 chefs d'État et de gouvernement africains, des représentants de l'Union africaine, mais aussi des représentants de l'Union européenne et des Nations unies. Il y avait énormément d'acteurs qui étaient présents pour l'annonce du lancement du plan Mattei qui était cher à Meloni puisqu'elle avait annoncé dès 2022 à son arrivée au pouvoir. Alors, le plan Mattei, c'est quoi? C'est d'abord un plan qui porte le nom de Enrico Mattei. Et là, il y a cette dimension de communication qui est très importante. Mattei était un résistant, un démocrate chrétien. Donc pas exactement une personnalité qui appartient au panthéon personnel de Giorgia Meloni normalement. Mais dans le cadre de sa longue opération de dédiabolisation et de normalisation, il est assez significatif qu'elle décide de se tourner vers cette personne-là pour donner son nom à ce projet. Mattei, par ailleurs, était le créateur de ENI, la grande compagnie d'hydrocarbures italienne dans les années 50, une compagnie très présente en Afrique depuis des décennies et qui joue maintenant un rôle d'autant plus crucial que l'Europe s'est détournée du gaz russe et s'est tournée vers l'Afrique et avant tout vers l'Algérie pour importer son gaz. Donc, il y a cette dimension communication. C'est dans le cadre aussi de la présidence italienne du G7 cette année que Giorgia Meloni organise cela. Et aussi avec sans doute un regard sur les élections européennes de juin prochain. Elle est quelqu'un de constructif, elle veut travailler avec l'Afrique. Elle annonce une fois de plus, comme souvent ça a été annoncé par le passé, que son projet n'est pas paternaliste, mais un projet de vraie coopération d'égal à égal. Et évidemment, elle ne dissimule pas que l'objectif derrière, c'est aussi de juguler l'immigration irrégulière. L'idée étant que plus on développe les pays africains, moins il y aura de migrants irréguliers. Donc tout le monde finalement s'y retrouvera.
Est-ce que c'est juste une opération de communication?
Alors l'Italie a une présence vraiment ancienne maintenant en Afrique, avec ENI bien sûr, mais avec aussi d'autres grandes entreprises publiques italiennes, avec des PME et des PMI italiennes très présentes en Afrique, avec aussi la communauté catholique. Les diocèses italiens sont présents dans plusieurs pays africains dans le domaine du développement, et la communauté Sant'Egidio, qui est une communauté de laïcs proche du Vatican, participe beaucoup à la résolution de conflits, notamment en 92, au moment de la guerre civile au Mozambique. Donc l'Italie est un vrai acteur en Afrique depuis longtemps. Elle a une image moins négative que celle de la France, même si elle-même a aussi eu des aventures coloniales en Afrique. Et aujourd'hui, ne serait-ce que par sa géographie et par la présence de son tissu industriel et ses ONG, elle a un vrai rôle à jouer en Afrique. Et puis, il faut rappeler que ce plan Mattei s'inscrit tout à fait dans le plan Gateway de l'Union européenne. Le plan Mattei, c'est 5,5 milliards d'euros. Le plan Gateway, c'est 150 milliards, donc c'est une petite partie. Les Européens, en tout cas, semblent tout à fait accepter cette idée. La preuve, la présence d'Ursula von der Leyen, de Charles Michel et d'autres responsables européens de premier plan à Rome lors de ce sommet. Donc, peut-être que aujourd'hui, quand l'Afrique est un terrain si difficile pour l'Europe, eh bien, l'Italie pourrait être un acteur central dans la vision qu'a l'Europe de ce continent.
Merci Grégory Raïko. Des articles à retrouver sur le site de theconversation.fr. Le lien est également sur rfi.fr.
Tonight, long light of northern skies has put a fire into our eyes.
À Stockholm, focus sur la culture scandinave. La nouvelle exposition du Nordiska Museet a pour vocation de mettre en lumière 5 siècles de vie des habitants des régions nordiques. Grâce à sa collection d'objets Sami, la plus grande au monde, le musée redonne sa place à ce peuple autochtone du Grand Nord qui a longtemps été mis au banc du récit national. Un reportage signé Carlotta Morteo.
Depuis que cet immense musée, mi-château, mi-cathédrale, a ouvert en 1907, c'est sa plus grande exposition. On y découvre 4000 objets pour explorer 500 ans de vie quotidienne dans la péninsule nordique.
On commence dans le nord de la Suède, avec les Samis.
Matti Sandin est le commissaire d'exposition.
Dans chaque salle, on propose un film sur un personnage historique, une reconstitution de sa vie. Elle, c'est Inga de Tingavara. Cette Sami possédait 1000 rennes et était extrêmement riche. Elle est en train de fabriquer des chaussures pour les vendre à Stockholm. Les Samis étaient le moteur de l'économie du nord du pays, grâce au commerce de fourrures et à la pêche. Ils savaient aussi s'orienter à une époque où il n'y avait pas de carte.
Ici, des traîneaux datant de 1600 et quelques. Là, des béaska, des manteaux en peau de renne, et toutes sortes de contenants en bois incrustés de motifs, des couteaux, des fourreaux en os et des bijoux raffinés. Des artefacts sami qui n'avaient pour la plupart jamais été montrés avant.
Je suis content de voir que dans les médias, au sein de la recherche, on parle de plus en plus de l'histoire sami, encore méconnue des Suédois, des Norvégiens et des Finlandais. Mais c'est toujours trop peu. Leur religion initiale, leur culture, ils ont été réprimés pendant très très longtemps par les gouvernements, au nom de l'idée de nation selon laquelle nous étions une culture, un peuple. Et maintenant, on se rend compte que non. Sauf qu'on manque d'informations. Il nous faut renouer avec la culture sami.
Une autre population a longtemps été écartée des livres d'histoire, la minorité linguistique finlandaise du Grand Nord. Bûcherons, ils sont réputés pour leurs objets en écorce de bouleau, leurs connaissances médicinales et leurs pouvoirs magiques.
La Suède et la Finlande ont été le même pays pendant 800 ans. De nombreuses cultures diverses sont venues ici dans le Nord, où la nature, le climat, les quatre saisons, les distances aussi, ont fait qu'un certain mode de vie typiquement nordique est apparu à cause de l'abondance de la neige, mais aussi de l'obscurité qui domine une moitié de l'année et du soleil qui ne se couche pas l'autre moitié. C'est une expérience de vie très différente des cultures du Sud.
L'exposition raconte l'émergence des villes, de la bourgeoisie, des échanges commerciaux avec le monde, la prospérité du royaume de Suède et sa chute au début du 19e siècle.
En 1809, nous perdons la Finlande, annexée par la Russie. L'époque est dramatique. Les gens cherchent à faire de l'argent par tous les moyens. On a même eu une colonie d'esclaves à Saint-Barthélemy, dans les Antilles. Il y a quelques objets ici pour nous le rappeler. Pendant longtemps, on a entretenu le mythe que nous, les Suédois, étions gentils avec nos esclaves. C'était la période des Lumières nordiques. Mais il y a 6 ans, on a découvert dans des archives françaises que, bien sûr, les conditions d'esclavage sous les Suédois étaient aussi terribles que partout ailleurs.
Les aspects sombres de l'histoire suédoise sont encore tabous. La réalité de la vie des paysans, par exemple, qui pour la plupart vivaient dans une misère absolue en tant que métayers pour de riches propriétaires. Ils seront 2,5 millions à émigrer aux États-Unis au 19e siècle. Les fermes américaines, peintes en rouge, en sont une flagrante réminiscence.
Les autorités américaines ont vu que les Nordiques étaient protestants, qu'ils savaient lire, qu'ils étaient vaccinés et qu'ils étaient bien bâtis parce qu'ils mangeaient beaucoup de pommes de terre. Ils les ont envoyés dans le Midwest développer l'agriculture. Mais les Américains voulaient aussi domestiquer les caribous pour fonder des colonies. Donc beaucoup de Samis sont partis travailler dans la réniculture là-bas.
Acculés par la pseudo-science des races, déplacés et assimilés de force par l'Église, puis discriminés par l'État jusque dans les années 70, les Samis font pour la première fois leur entrée dans une exposition d'envergure nationale sans être cantonnés au folklore ou à la préhistoire. Ce n'est qu'en 2021 qu'une commission vérité a été nommée pour documenter officiellement les abus commis à leur encontre et proposer des réparations.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Dans un instant, l'actualité continue sur RFI. Moi, je vous dis à bientôt.